Le masque sans la plume.
Je suis allé voir Je verrai toujours vos visages de Jeanne Henry. J'ai regardé le nom de la réalisatrice pour toi. Parce que je rate pas les noms des réalisateurs quand je vais au cinéma, moi. Et alors l'histoire. Ce sont les réunions organisées par des médiateurs de la justice restaurative qui, en fait, font se rencontrer des victimes de crimes et délits avec des auteurs de ces mêmes délits pour échanger sur leurs ressentis, leurs traumatismes. Et donc ce groupe de parole, en huis clos, rythme le film. C'est un peu le SAV du crime et du délit entre ceux qui ont subi et ceux qui ont fait. Donc chacun fait son petit retour expérience client avec donc les victimes qui disent « Ouais, c'était pas ouf quand je me suis fait homejacker ou quand je me suis fait violer ou quand je me suis fait tabasser dans la rue pour mon sac à main. » Et les auteurs de crimes qui disent « Bah désolé, on n'a pas fait les bons choix dans la vie, on n'avait pas compris que c'était si difficile à vivre et tout. » Et après, du coup, les victimes, elles disent « Ok, tiens, je te fais une tarte au pruneau ou à l'orange et puis je vais te refaire ton bouton de chemise. » Et c'est la grande réconciliation à la fin, quoi. Après de longues séances de discussion, au moins 6 ou 7 séances, je crois, de discussion. Il y a une autre histoire en parallèle, l'histoire de Adèle Exarchopoulos, je me souviens plus son nom dans le film, qui est l'histoire de son viol incestueux par son frère quand elle était gamine. Et en gros, elle veut un peu tirer un trait sur cette histoire-là et vider son sac avec son frère, quoi. Et donc, nous, on suit la médiatrice de justice qui va opérer la rencontre entre les deux. Moi, j'ai un problème avec ce film, c'est que je voulais que ce soit un documentaire sur ce sujet-là. Et pendant tout le film, en fait, je me disais, est-ce que ça serait crédible si je me disais que c'était un documentaire? Et je trouve que, en fait, les dialogues étaient trop fluides. Je trouve que pendant les séances de huis clos, il n'y avait pas assez de bégaiement, pas assez de silence. Tous les personnages avaient une analyse super construite, cohérente sur leur situation, machin et tout. Enfin, j'ai trouvé que ça sonnait pas très vraisemblable, cet aspect-là du film. Et il y a quand même deux personnages qui m'ont séduit, c'est Miu Miu. Il y a notamment un petit monologue sur les années de vie qu'elle a perdues après son agression, où elle dit qu'elle sort plus de chez elle, etc. Où là, j'avoue, je me suis senti un petit peu fébrile sur cet instant-là. Et le frère de Adèle, qui est le man qui a l'affiche de Chien de la Casse, là, je sais pas comment il s'appelle. Raphaël Connard ? Quenard ! Il est passé près du drame quand même, le Raph. Rafou joue très très bien. En fait, le mec ne dit pas de mots. Je pense qu'un vrai man, il aurait réagi comme ça dans une telle rencontre, tu vois. Et c'est la première fois du film où je me disais, putain, lui, il écrit de ouf. Ensuite on a Gilles Lelouch, donc je vais balancer sur Gilou. J'aime bien, en plus on m'a dit aujourd'hui que c'était un mec super sympa dans la vie et tout. Et en fait Gilou, j'ai un problème, c'est que dans tous les films avec Gilou, il y a Gilou à un moment il s'énerve quoi. C'est à un moment il se lève, il dit putain Issa, mais comment tu peux dire un truc pareil bordel. Dans tous les films, il y a Gilles qui fait ça, et les films où Gilles ne fait pas ça, c'est des films sans Gilles en fait. Donc ça me pose un petit souci, mais bon j'aime bien le garçon quand même. En fait, le point fort de ce film, c'est son sujet, parce que on connaît pas la justice restaurative, et je pense que ça aide pas mal de gens, et que ça va créer, je pense, des vocations chez les spectateurs, notamment chez les seniors retraités. Big up à nos seniors, malgré leur présence assez furtive dans la rue pour les retraites, on les embrasse quand même, nos seniors. Après, oui, ça fait un peu didactique. Et surtout, quand tu fais un film sur ce sujet-là, il y a un écueil à éviter, c'est la fin happy ending où la mamie gâteau va offrir une tarte aux pommes à l'agresseur. Et c'est pile poil là-dedans que tombe le film. En gros, à la fin, c'est la grande réconciliation. Donc, petite crotte de nez à Jeanne Henry sur ce point-là. Jeanne au secours. Donc, je lui mettrai la note de 3,5 sur 5, qui est une note moyenne plus. C'est l'équivalent d'un 14 au bac français. Tu ouvres un 4 quarts pour le célébrer, mais tu vas pas non plus ouvrir la bouteille de shampoing ni de mousseux, quoi.
J'ai été voir Chien de la Casse. De qui, putain ? C'est qui le réel ? Bon, on s'en fout un peu au pire. Je précise quand même que j'ai été le voir après un premier essai raté, vu que je n'ai pas pu rentrer dans la salle tellement il y avait de monde. Le synopsis, c'est l'histoire de deux potes, on dirait qu'ils ont autour de 20 ans. Ils habitent dans un petit bled du sud de la France. On voit vraiment une église, des maisons et un PMU. Rien de plus. Donc c'est l'histoire de ces deux potes. Il y en a un qui a l'air d'être un peu le leader, qui parle assez mal à l'autre, mais en même temps on voit qu'ils sont quand même assez liés et qu'il a l'air attaché. Et l'autre qui dit pas grand chose et se laisse un peu faire par son pote. Les deux rôles, c'est Raphaël Quenard, qui jouait dans Family Business, avec une manière de parler assez folle. Je pensais que c'était pour la série. Eh bien non. Il a vraiment cette manière de parler... une sorte d'accent étrange. Et donc, lui, il fait le mec un peu leader. Il se trimballe tout le temps avec un chien qui s'appelle Malabar. Et Anthony Bajon, donc, joue le rôle du pote qui traînasse un peu derrière l'autre et qui dit pas grand-chose. Et du coup, le film raconte leur amitié qui décline un petit peu quand arrive une jeune nana que Anthony Bajon prend en stop. tout le long du film, c'est ponctué par des petites choses. Et en fait, c'est surtout Raphaël Koenig qui fait ça. Il balance des espèces de punchlines totalement improbables. Il cite Montaigne, mais vraiment de manière très abrupte et très plat comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un peu un décalage entre les deux. On se demande un peu ce qu'ils font ensemble. Bon, après, il l'explique assez bien. Sauf qu'en fait, ils partagent vraiment rien. Anthony Bajon, il est tout mou et il est dans son canapé. Il adore jouer à FIFA. Et si l'autre le sortait pas à prendre l'air, balader Malabar et faire des tours dans le bourg, clairement, le frérot, il reste sur sa couette à jouer à FIFA avec ses ténes, quoi. Ça représente assez bien, je pense, que plein de gens peuvent connaître, en fait, d'avoir grandi à la campagne, d'avoir été avec des gens toute la jeunesse et de les garder dans leur cercle, alors que pourtant, tout le monde a pris des chemins un peu différents. L'autre personnage principal de ce film, c'est quand même Malabar, le gros chien. Et comme dans tout film où il y a un chien, je me demande un peu ce qui va se passer pour lui, quoi. Je suis toujours un peu fébrile parce que j'ai toujours un peu peur pour son destin. Franchement, Raphaël Koenig le trimballe absolument partout. Et donc, il joue à la balle et ils ont inventé une chanson qui s'appelle « La balle à Malabar ». C'est la balle à Babar, la balle à Malabar. C'est ça l'air ? Voilà, allez voir le film si vous voulez avoir la chanson dans de meilleures conditions et sur un meilleur air. Faut vraiment y aller voir Chien de la Casse, c'est très très chouette. C'est pas une histoire qu'on connaît, c'est pas un truc qui a déjà été écrit, enfin, le scénario change, les acteurs sont ouf. Le film il a vraiment été écrit pour Raphaël Koenig, enfin, on dirait vraiment que c'est lui. Faut vraiment aller le voir, mais il faut la jouer stratégie. Parce qu'il doit passer dans 5 salles à Paris, donc j'imagine même pas dans le reste de la France, chez les ploucs en province, bien sûr, c'est comme ça qu'on dit. C'est un peu dommage parce qu'en fait, on chie un peu sur le cinéma français, mais là, il y a un super film et il passe nulle part. Donc c'est un peu tristoun. Démerdez-vous, en fait, et trouvez une salle qui le passe, quoi. Et donc, pour Chien de la Casse, je vais mettre 4,4 étoiles. C'est vraiment très bien et il faut vraiment aller le voir.
Je suis allé voir Les Trois Mousquetaires partie 1 d'Artagnan de Martin Bourboulon. L'histoire, c'est l'histoire des Trois Mousquetaires. C'est d'ailleurs plus l'histoire de D'Artagnan, en fait. Il y a tromperie sur la marchandise. On commence dans une espèce de village forteresse, là, où il se passe des dingueries. Il y a D'Artagnan qui arrive et il y a une femme qui se fait agresser, comme tous les jours dans le métro, finalement. Il y a D'Artagnan qui vient pour la sauver. Il tue tous les méchants et là, boum, il se fait tirer dessus. Il se fait enterrer. Et là, on a un peu un remake de Thriller de Michael Jackson. On voit la main qui sort et tout de la terre. En fait, il est pas mort. L'histoire, finalement, c'est celle de D'Artagnan qui veut devenir mousquetaire et qui donc monte à Paris comme s'il était un jeune qui voulait faire du stand-up pour devenir une star des mousquetaires. Et ça se transforme vite un peu en Sherlock Holmes. Il doit un peu résoudre des enquêtes pour faire tomber des complots. Parmi les personnages, on a évidemment D'Artagnan qui est joué par François Civil. Comme principale caractéristique, il est vraiment très très beau. Sinon, on peut quand même dire qu'il est quand même sale tout le film. C'est un personnage intrépide, jeune, fougueux, tout ça. Il fait des blagues. Ça, je suis pas sûr qu'il faisait autant de blagues dans le livre. Mais le personnage est assez attachant et assez cool. On a Athos, qui est joué par Vincent Cassel. Vincent Cassel avec des cheveux longs, avec le peu de cheveux qu'il a, on se doute qu'il a tromperie là encore sur la marchandise. Porthos, qui est joué par Pio Marmaille. Alors lui, il est rigolo, mais c'est dommage, il parle 3 fois dans le film, donc on le voit pas beaucoup. Il joue donc un personnage assez volubile, assez épicurien. Il aime manger, il aime baiser. Par contre, résoudre les enquêtes avec les autres et sauver les gens, on l'a pas encore trop vu. Et après, il y a Aramis, Jack Sparrow de Wish, joué par Romain Duris. Vraiment, le mascara, le crayon sur les yeux, tout ça, était-ce vraiment nécessaire ? Moi, mon personnage préféré de ce film, je crois que c'est le roi, joué par Louis Garrel, qui joue très bien le roi teubé. Tout le monde se fout de sa gueule, alors que c'est quand même le roi. Il me semble qu'à cette époque, même si on se moque juste un peu du roi, finalement, on se finit décapité. Signe distinctif de ces personnages, en tout cas des Trois Mousquetaires, dès qu'il leur arrive un pépin, que quelqu'un les bouscule, leur parle mal ou quoi, ça part en baston. Ils proposent finalement un rendez-vous pour se tuer. C'est un mode de résolution des conflits comme un autre, mais que je trouve peut-être un peu violent. Est-ce que ça se passait vraiment comme ça ? J'ai un doute parce que il resterait quand même pas grand monde, c'est-à-dire « Ah madame, il manque 10 centimes pour payer votre baguette de pain, hop, allez, vas-y, on envoie les épées. » Après, que chacun des Trois Mousquetaires ait un problème avec D'Artagnan et au final ils se retrouvent tous en même temps, je trouve que ça c'est plutôt malin et c'est plutôt rigolo pour amener tous les personnages dans le film. Il y a un vrai problème de lumière. C'est pas parce que Maître Gims a dit que l'électricité avait été inventée par les Égyptiens qu'il y en avait en 1772. En plus, les personnages sont souvent sales. Ça donne une image assez terne. C'est assez sombre comme film.
J'ai beaucoup aimé ce film, j'ai beaucoup aimé la fin, le cliffhanger de la fin qui nous amène sur les autres épisodes. Ça fait plaisir de voir du cinéma, très grand spectacle, presque à l'américaine entre guillemets, produit par des Français. Je vais mettre 4 étoiles.
La victoire au piège, je crois.